Session théologique sur le mystère du Christ par le Père Philippe, le 21 août à Saint-Jeudard.
D'abord, je vous dis un grand bonjour et une joie de pouvoir vivre ensemble cette session théologique. Il y en a encore une quinzaine qui doivent arriver, qui ne sont pas là, mais j'ai aimé mieux avancer l'heure de la conférence, puisque après la conférence, il y aura une petite réunion pour voir comment on peut diviser, non pas pour régner, mais diviser pour mieux comprendre. En différents groupes, en trois groupes, ceux qui n'ont jamais fait de théologie, ceux qui en ont fait un peu, ceux qui sont très forts. C'est pas, parce que de fait, il y a des niveaux très différents. Et alors vous pourrez vous regrouper l'après-midi ensemble pour discuter. C'est des questions. Une discussion en vue de la recherche de la vérité, pas une discussion pour simplement s'opposer. Cela, très bien, les dialecticiens, ils n'entrent pas dans le royaume de Dieu. Alors, c'est difficile, on les met un tout petit peu à l'écart. Mais une discussion qui soit une discussion d'une recherche de vérité. C'est bon de ne pas être trop nombreux. Quand on est trop nombreux, c'est impossible. On pourrait, après chaque conférence, avoir une discussion d'une demi-heure. Ça pourrait se faire. Et je crois que c'est moins fructueux que de pouvoir se réunir ensemble et discuter un peu. Et puis celui qui est responsable du groupe note. S'il y a telle question importante qui demeure, et je la reprendrai moi-même à un des cours de l'après-midi. Vous voyez comment on essaie d'organiser cela, à la fois de maintenir des cours, de permettre de vous rencontrer et de discuter entre vous avec quelqu'un qui est responsable du groupe. Par là, faire un tri sur les questions importantes et on revient sur ces questions. On le fait dans un esprit de recherche de vérité. C'est pour ça que c'est important que ce soit dans un climat religieux et monastique. La théologie est née dans un climat religieux et monastique. Il ne faut pas l'oublier. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est en face d'une crise de la théologie. Vous le savez bien. J'aurais pu vous amener ici la documentation catholique, vous rappeler cette lettre des théologiens allemands, 163, maintenant c'est peut-être un peu plus, des théologiens français, des théologiens italiens, tout le monde s'y met quoi, des théologiens européens. Une lettre adressée au pape, ouverte, adressée au cardinal Ratzinger, qui dit leur mécontentement. Les théologiens sont des serviteurs. Il y a toujours la crise des serviteurs. Je crois qu'on devra faire un syndicat des théologiens pour être un intermédiaire entre les théologiens de mauvaise humeur et ceux qui, à Rome, décident certaines choses que les théologiens ont beaucoup de peine à accepter. C'est une crise qui est déjà très ancienne. C'est très ancien. C'est pas étonnant. Je crois que c'est aussi ancien qu'il y a eu des théologiens, qu'il y a eu des hommes théologiens. Mais la très grosse difficulté, c'est que on reste des hommes. On a la foi. La théologie se développe. Et comme la théologie, on va le voir, c'est une réalité complexe. Je dis pas hybride. C'est pas le mulet de la science. Vous voyez, l'exemple que prenaient toujours les philosophes du Moyen Âge, c'est quelque chose de très complexe, la théologie. On le verra. Parce que c'est quelque chose de complexe, la théologie n'a pas de stabilité en elle-même. Il faut dépasser la théologie pour trouver la stabilité. Au niveau théologique, vous ne trouverez jamais la stabilité. La première conférence à laquelle j'ai assisté à Fribourg quand je suis arrivé, le soir, c'était une conférence de Urs von Balthasar, dont je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas personnellement. Alors cette conférence de von Urs Balthasar était sur les discussions des théologiens. Et il prenait ce thème j'ai retenu, parce que ça, c'est toujours le point de départ qu'on retient le mieux. Petit Jean disait déjà ça, n'est-ce pas ? Le point de départ, on le sait très bien. Après, ça s'estompe. Cette première conférence, j'étais à côté du père de Ménas. Il y avait dans le bas, moi j'étais dans le haut, j'aime bien dominer les autres. Et puis regardez, quand on arrive, faire des menaces pendant toute la conférence. Si voilà, un tel. J'écoutais d'une oreille, d'autre, et d'un œil, je regardais. Il y avait le père Journet, qui était premier rang, juste en face de Urs von Balthasar. Il savait bien, en deux positions assez différentes. Et puis il y avait, au fond, un peu tout. Tous les gens compétents en théologie qui étaient là présents. Parce que tout le monde respectait Urs Balthasar. Tout le monde l'aimait et respectait. Sans être nécessairement ton avis. Alors, la conférence était celle-ci. Les apôtres se disputent quand le Christ est absent. C'est très vrai. On voit des discussions des apôtres. Ils discutent sur des sujets très pratiques. La théologie des apôtres a commencé sur des sujets très très pratiques. Quel sera celui qui aura l'autorité quand le Christ aura disparu ? C'est quand même très intéressant, ça. C'est un sujet toujours actuel, c'est la discussion des théologiens d'aujourd'hui. Ça rejoint les premières disputes des apôtres. Tant que Jésus est là, c'est évident, l'autorité est là. Et quand Jésus sera plus là, qu'est-ce qu'il y aura comme autorité ? Qui sera l'autorité ? Alors ils discutent. Et Jésus intervient. Hey, qu'est-ce que vous dites ? Oui. Quel est celui qui aura l'autorité ? C'est le plus petit. Les royaumes païens discutent là-dessus. Vous n'avez pas cette discussion. C'était un thème très beau. Puis, au milieu de ce thème, donc c'était en 45. Déjà vieux, 45. Parmi vous, il y avait quand même pas mal qui étaient encore dans les possibles de la science de Dieu. En 45. Et Urs von Balthasar, qu'on fait. Il y a un thème, puis à travers le thème, il y a des tas de choses qui viennent. C'est quelquefois les choses les plus intéressantes. Le thème a été très important, très intéressant. Pourquoi les théologiens se disputent-ils? Et les discussions des théologiens sont assez fortes. Et quand les évêques commencent à répondre, c'est aussi assez violent. L'irascible de ces hommes d'Église est assez fort, surtout chez les théologiens. Et alors, Urs Balthasar s'est mis à parler des peines de l'enfer. 45. L'enfer est-il éternel? Je l'entends encore. L'enfer est-il éternel? Maintenant, il est dans la vision béatifique, il doit le savoir. Alors, on verrait bien qu'il puisse nous le dire un peu. L'enfer est-il éternel? L'enfer est-il éternel? La miséricorde de Dieu est infinie. Elle est infinie. Dieu peut-il laisser l'enfer exister? Puis il continue là-dessus, vous voyez, dialectiquement, passant de la miséricorde à ce qu'on représente la justice, et puis passant de l'un à l'autre, et montrant très nettement ce qu'au plus intime de son cœur, il portait. N'hésitez pas d'avancer, vous savez, parce qu'il ne faut pas hésiter d'avancer, pour laisser les chaises aux derniers qui n'oseront pas entrer. Vous arrivez encore à une heure potable. Alors, c'est pas de votre faute, on a commencé avant. Vous voyez, parce que ceux qui étaient là étaient tellement désireux qu'on commence. Alors, à la fin de la conférence, Urs Balthasar sort le premier, et celui qui le suit, c'est l'abbé Journet, qui à ce moment-là n'était pas cardinal. Et moi, j'arrive à toute vitesse, entraîné par le père de Ménas, dégringolant à toute vitesse pour être là tout près. De sorte que j'ai encore vu le premier moment de la rencontre. Ils se connaissaient comme des amis, mais comme des amis qui avaient des idées très différentes. L'abbé Journet et Urs Balthasar. Urs Balthasar salue l'abbé Journet et il lui dit: vous me mettez en enfer. Alors Journet, avec sa petite voix merveilleuse, dit: je vous aime encore. De ce dialogue merveilleux entre ces deux théologiens, qui l'un et l'autre cherchaient la vérité. Ils la cherchaient à des niveaux différents, comme toujours, à des niveaux différents. On est sensibilisé sur des points différents. Et on n'a pas la force, il faut bien le dire, de remonter toujours à la source. La science théologique, pour saint Thomas, est une science subalternée. C'est-à-dire une science qui dépend de la vision béatifique. C'est ce qu'on oublie complètement aujourd'hui. Et c'est pour ça que la rabiesse des théologiens est si farouche. La rabiesse, c'est la colère. La colère des théologiens est si farouche. Parce que les théologiens ne sont plus assez contemplatifs. La théologie ne peut exister que dans un milieu contemplatif. Autrement, j'aime mieux être mathématicien. J'aime mieux être philosophe. Beaucoup mieux. Du reste, quand on m'a demandé d'enseigner la philosophie, je me souviens, c'était le père Chenu. Le père Chenu m'avait dit: on vous garde pour les études au Saulchoir. Ça se faisait très vite, là, au Saulchoir. On faisait vite le tri. Le père Chenu me dit: on vous garde. Et on vous garde pour le dogme. si vous le voulez. Ah, je dis oui, moi c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est d'enseigner la théologie. J'ai commencé à enseigner au Saugeoir. Puis il y a eu un ordre impératif du maître général de l'ordre Saint-Dominique. Un télégramme venant de Rome. Parce qu'à ce moment-là, on ne téléphonait pas. Un télégramme venant de Rome. Père Marie-Dominique doit se rendre à Fribourg dans un mois pour enseigner la philosophie. Au moins, j'ai fait un acte d'obéissance. Hein, c'est beaucoup vers ça. Un acte d'obéissance qui... Je dis très bien. Les professeurs du Saugeoir de cette époque-là n'étaient pas du tout d'accord. Alors, eux ont réclamé auprès du père général. Moi, je restais en dehors. Je n'avais qu'à obéir. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis mis sur la voie, par obéissance, de la philosophie. Et après, sur le moment même, c'était dur. Quitter la théologie pour la philo, c'est pas commode. Après, j'ai compris qu'en effet, ce qui manquait le plus aux théologiens d'aujourd'hui, c'était d'être des philosophes. Ça, j'en suis convaincu. Et c'est pour ça que dans la congrégation Saint-Jean, j'insiste tellement sur la philosophie. Parce que la théologie, qu'est-ce que c'est? Posez-vous la question, puisque nous allons en faire ensemble. La théologie, qu'est-ce que c'est que la théologie? La théologie, elle est née. Je parle de la théologie chrétienne. La théologie, elle est née dans un climat de croyants qui essayaient de comprendre la parole de Dieu. Le croyant se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est gros. Il y a beaucoup de choses. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau. Déjà une coupure. Et dans l'Ancien, et au début, il n'y avait pas d'exégèse. Hein. L'exégèse, c'est l'enfant terrible qui est né en dernier lieu. Il ne faut pas l'oublier. C'est l'enfant terrible du théologien. Oh là là. C'est né en dernier lieu. Sauf si on considérait que toute la théologie est une exégèse. On peut le dire. Toute la théologie est une interprétation de la parole de Dieu. Donc, toute la théologie est une herméneutique de la parole de Dieu. Dès le point de départ. Le théologien, c'est un herméneute. Oui, session d'herméneutique. J'aurais dû dire ça. Ça aurait fait très bien dans le tableau. Et alors j'aurais eu des gens pas très commodes. Et alors on aurait bataillé, bataillé, bataillé. C'est pas ça que je veux. La théologie, elle est née à partir d'une réflexion de croyants sur la parole de Dieu. Et on s'est aperçu qu'il y avait des passages dans la parole de Dieu qui semblaient presque s'opposer. La parole de Dieu a une unité, puisque c'est la révélation, reconnue par l'Église. Ah, il y a donc là déjà quelque chose de très particulier. Voyez, l'Écriture. Enveloppée de la tradition. La tradition est plus vaste que l'Écriture. Et l'Église. La position triangulaire n'est-ce pas, chez les psychologues, est une position difficile. On le sait. Eh bien, la position triangulaire, elle est toujours présente dès qu'on regarde la théologie. Elle naît à partir des théologiens qui ont la foi. La foi dans la parole de Dieu. Dans l'Église qui enseigne et qui nous communique la parole de Dieu. Et qui la communique à travers la tradition. Donc, le croyant est toujours en face de ces trois. Le magistère, il faut bien parler. L'Église, hein? L'Église enseigne le magistère, l'enseignement de l'Église. La tradition et l'Écriture. Alors, ajoutez ceci en vue du peuple de Dieu pour les croyants, pour les incroyants, tous les hommes. Je fais de la théologie pour le peuple de Dieu et pour moi-même en tant que peuple de Dieu. Alors, le croyant a toujours ces trois dimensions. Le croyant reste un homme, la foi s'enracine dans l'homme, et dans l'homme intelligent, ce qui est mieux. Il faut quand même un minimum d'intelligence, hein, pour être théologien. Il faut être autant que possible un grand croyant, donc la foi et l'intelligence. Et c'est l'homme qui est membre de l'Église, qui fait partie de l'Église, partie de la tradition et qui connaît un peu l'Écriture, qui fait de la théologie, le fruit de la théologie, en vue de, du peuple de Dieu. Mais comme c'est complexe, hein. Toujours quand on est devant une réalité complexe, la synthèse prend des points différents. Vous pouvez mettre l'accent. Qu'est-ce qui est premier dans tout ça? C'est la grande question. Il y a la théologie et puis il y a l'enseignement de la théologie. Est-ce que tout le monde peut enseigner la théologie? Il y a des universités catholiques. Les cathos. Les universités catholiques. Où l'on enseigne la théologie. Où il y a des chaires de théologie. Et pour enseigner la théologie, il faut un mandat de l'Église. Ah ! Le magistère. Rouge. Justement, la querelle vient là. Jusqu'où la théologie relève-t-elle uniquement de la compétence et d'un mandat d'Église? La compétence, c'est l'intelligence. L'intelligence bien faite. Connaître le problème. Connaître de telle ou telle manière. Puis, l'enseignement. L'enseignement de la théologie. Tout le monde ne peut pas avoir une chaire dans une université catholique. L'Église accepte ou refuse. Tu sais comment ça se passe, hein? Il y a un conseil de faculté qui émet des candidats. On les envoie à l'Église, trois, Et ils ont choisi un. C'est pas toujours dans le conseil, on met un, deux, trois. Hein. Il y a un ordre. Et l'Église peut choisir le petit dernier qu'on n'aurait jamais accepté. Et tous les petits conflits. Il hein. Faut voir ça de près dans la cuisine de l'Église. Parce qu'il y a une cuisine souterraine dans l'Église. On est, la cuisine de l'Église, il y a le magistère. Et alors on sait très bien que le magistère, hein, sont des hommes. Qui essaie d'être des croyants. Et au-dessus du magistère, vous avez l'autorité du Saint-Père, ou dans le magistère, l'autorité du pape. Et puis toutes les différentes fonctions qui sont à Rome. Et puis l'université. Voilà. Vous voyez comme c'est complexe. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais c'est pour vous montrer que les conflits qui peuvent exister. Parce qu'on est en plein conflit théologique aujourd'hui. Comme aujourd'hui, tout se répercute partout, le laboratoire théologique, ce n'est plus les facultés théologiques. Le laboratoire théologique, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est au courant de tout. Au courant qu'il y a des théologiens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Des théologiens qui ne sont pas d'accord au point de vue du gouvernement de l'Église. Au point de vue des choses, ils ne sont pas d'accord. Et c'est dit à tous ceux qui veulent le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est parce que vous n'avez pas fait votre petite enquête. N'est-ce pas ? Mais au fond, on peut tous, c'est livré à tout le monde. Ce qui exige aujourd'hui, vous voyez, de tout croyant d'être un peu théologien pour comprendre tous ces différents aspects-là. Je crois que c'est ça, on arrive à ça, on arrive que le peuple de Dieu, aujourd'hui, s'il n'a pas un petit peu de théologie, risque de questionner tel théologien, tel autre théologien. Il sera en face de deux opinions tout à fait différentes. S'il a le temps de discuter, il pourra voir les arguments de l'un et de l'autre. Et s'il est intelligent, il pourra peser le pour et le contre et se faire à lui-même une opinion théologique en conformité avec le magistère ou un peu à côté. Parce que le magistère ne dit pas tout le temps, vous devez, le magistère laisse des opinions en disant attention, elles sont dangereuses. C'est ces opinions auxquelles on a dit, elles sont dangereuses, continue d'aller toujours plus loin, le magistère à un moment donné, ah, là, vous dépassez la frontière. Vous allez trop loin. Vous êtes vraiment en contradiction avec l'enseignement actuel de l'Église, avec la tradition, avec l'Écriture. Bon, là, vous voyez donc la complexité. Il faut la voir aujourd'hui. Parce qu'il faut voir que ce n'est pas commun du tout de faire de la théologie aujourd'hui. Ce n'est pas pour vous décourager. Ici, on est un petit laboratoire. Mais c'est quand même un petit laboratoire. Cette session est un petit laboratoire. Alors, vous allez me dire, ça me dépasse complètement. Tant mieux que ça vous dépasse. Comme ça, vous écouterez mieux. Et si vous dites, oui, c'est vrai. Complexité très grande, c'est vrai. Alors, la théologie est née dans un milieu de croyants intelligents et de croyants qui voulaient répondre à des questions du peuple de Dieu. La théologie est née pour répondre à cette très grande diversité qui était dans la parole de Dieu. C'est vrai. Quand on voit Sarah, elle est dans l'Écriture, hein, dans la Genèse. Quand on voit Sarah obligé Abraham de renvoyer son fils, le fils de la servante. Première excommunication, c'est la femme. Et si la femme était au gouvernement, oh là 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 là, ça barderait. On verrait des sarrocs qui viendraient. Première excommunication. Sarah, qui dit à Abraham, Abraham n'avait pas envie du tout. Qui dit à Abraham, allez, renvoie petit Ismaël, renvoie sa mère Agar, parce qu'il y a une question d'héritage. C'est très pratique. C'est tout à fait d'ordre pratique, l'héritage. L'héritage d'Abraham doit être entièrement pour le petit Isaac, parce que c'est mon fils. Et je suis la femme légitime, elle et la servante. Intéressant, querelle entre la femme légitime et la servante. On retrouvera ça au point de vue de la théologie, n'est-ce pas? Quelle est la femme légitime? Quelle est la servante par rapport à la foi? Intéressant, ça. Jouerait-il que Sarah demande que Agar s'en aille, que Ismaël s'en aille au désert. L'héritage. Il faut qu'Isaac ait l'héritage complet. Querelle d'héritage. Vous savez, la tradition, c'est très souvent l'héritage. Il y a un héritage, la tradition. Et Abraham, après avoir prié, c'est un sage, Abraham, un serviteur de Dieu. Abraham, après avoir prié, obéit à Sarah et demande à Agar, à Ismaël, de partir. Curieux, hein, que Dieu soit d'accord avec Sarah. Vraiment, c'est impossible, ça c'est pas de Dieu. C'est une jalousie de mère, une jalousie féminine, farouche. Il y a des jalousies masculines, puis il y a des jalousies féminines. Elles sont terribles. Et Dieu dit à Abraham, qui lui, vous comprenez, son cœur est déchiré, ce sont ses deux enfants. Ce sont ses deux enfants, c'est pas l'enfance de Sarah, c'est vrai. Sarah avait accepté. Elle avait été magnanime. Et puis après, difficile de l'être tous les jours magnanime. On l'est un jour par an. Mais tous les jours, pas commode du tout. Alors, comment expliquer ça? Vous voyez la théologie? Voir ça, quand on dit que Dieu est infiniment miséricordieux, que Dieu est tout à fait bon et vis-à-vis d'Agar et d'Ismaël, c'est pas la bonté, c'est pas la miséricorde. Ah, quand on regarde le texte à la fin, on s'aperçoit que Dieu rattrape tout. Ismaël sera le père d'un grand peuple béni de Dieu lui aussi. Ah, c'est curieux de voir cette double bénédiction, celle qui passe par Abraham, celle qui est au-delà d'Abraham. C'est très important, ça, vous voyez, pour tout l'œcuménisme. C'est une très grande lumière, parce que c'est la première division, la première séparation. Et comment s'est fait-elle? C'est important. Et bien, la théologie naît à partir de ces interrogations. On a le texte de l'Écriture et on interroge. Comment Dieu peut-il demander ça à Abraham? On interroge pour comprendre, pour aller plus loin. La théologie naît d'un désir de vérité à partir de la parole de Dieu, pour aller toujours plus loin dans l'interprétation, la connaissance de l'Écriture. La parole de Dieu est donnée à l'homme qui est un croyant, et qui est en même temps un être intelligent. La foi ne supprime pas l'intelligence. Au contraire, la foi éveille l'intelligence. Et parce que la foi éveille l'intelligence, lorsqu'on sera en face de diverses paroles de Dieu qui semblent contradictoires, on se posera la question, comment comprendre cela ? Dieu qui demande à Abraham le sacrifice d'Isaac et Dieu qui supprime les sacrifices humains. Comment Dieu peut-il demander à Abraham le sacrifice de son fils ? En réalité, il ne le demande pas, c'est une épreuve. Comment Dieu peut-il éprouver de cette manière-là ? Vous voyez, toutes ces questions qui se posent, quand on lit la Genèse, on se pose des quantités de questions. Si on est un peu théologien, on pourra répondre. Si on n'est pas du tout, on restera devant ces questions. Donc, comprenons bien que la théologie naît de ce lien entre intelligence et foi. Dieu lie la foi à l'intelligence. Dieu fait une alliance entre les deux. Puisque la foi est reçue dans l'intelligence amoureuse du croyant. Et que la foi ne supprime pas l'intelligence. La foi ne supprime pas l'intelligence. La foi, au contraire, réclame du croyant d'être plus intelligent. Si on était vraiment croyant, tous les croyants aurait une intelligence bien développée. Parce qu'on n'est pas tellement croyant. Alors on laisse endormir. Ajoutons, ceci c'est très important, que la foi se transmet, du moins, que la foi se nourrit de la parole de Dieu. Puisque l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Et que Dieu s'est servi d'une parole humaine. Tu aurais pu très bien, hypothèse, tu aurais pu très bien se servir d'un langage qui soit son langage. Et quand je dis parole de Dieu, attention, hein, parole de Dieu, c'est la parole du prophète dont Dieu s'est servi. Donc ce n'est pas une parole qui vient directement de Dieu. Dieu se sert d'instrument. Et Dieu se sert d'une parole qui est une parole humaine. Dieu aurait pu très bien nous donner avec la foi un langage qui soit un langage nouveau, qui soit le langage du croyant. Ça aurait été merveilleux, vous voyez. En recevant de Dieu la foi, on aurait reçu une langue nouvelle qui soit la langue de Dieu. Que tous les incroyants ne comprendraient pas. On aurait donc ce privilège de croyant d'acquérir une nouvelle, un nouveau langage. Ça aurait été merveilleux. En tant que croyant, on se serait enrichi d'une langue internationale de croyants. Et alors à ce moment-là, on dirait, mais oui, pour tout s'entendre, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la langue de Dieu. On serait tous théocrates. Il faut que Dieu commande. Il faut que Dieu nous commande à tous. Vous voyez bien. Comme ça, on fait l'unité de l'espèce humaine. Pas du tout. Dieu se sert d'une parole humaine. Ah, c'est très intéressant, ça. Parce que, dans l'Écriture, je peux regarder l'Écriture de deux manières tout à fait différentes. L'Écriture de la Bible, la grosse Bible, qui contient toute la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu reconnue canoniquement par l'Église. Il y a des livres anciens que l'Église a dit non, ils ne sont pas canoniques. des évangiles, l'évangile de Thomas, si vous voulez, puisque c'est celui-là qu'on remet aujourd'hui en lumière. L'évangile de Thomas, ben oui, c'est peut-être de Thomas, il n'est pas canonique. C'est curieux, hein? Donc la Bible, c'est l'écriture, la parole de Dieu reconnue par l'Église. La Bible peut être lue, regardée par le philosophe. J'ai des amis philosophes qui ne sont pas croyants et qui aiment énormément l'écriture, en disant c'est le plus grand livre du monde. C'est le livre le plus intelligent qui ait été écrit. J'aime de le lire en philosophe. Beaucoup lire toute l'écriture en philosophe, et uniquement en philosophe, pour essayer de voir comment, à travers l'écriture, à travers la Genèse, il y a toute une philosophie de l'homme. Il y a une anthropologie dans la Bible, une très belle anthropologie. Il y a toute une philosophie sur Dieu. Toute une philosophie sur les ennemis qui s'est modifiée. Il y a toute une éthique, c'est sûr. Donc je le lis en philosophe. Je peux lire la Bible en croyant, en simple croyant. Je ne connais rien à la philosophie, je ne connais rien à l'histoire. Je lis l'écriture, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle est merveilleuse. Elle est actuelle pour moi. J'en vis. Petite Thérèse de l'enfant Jésus, comment lisait-elle la Bible? En croyant. C'est la foi. Donc, c'était la foi. Une foi vivante. Une foi aimante. Je lis la parole de Dieu comme une lettre de Dieu pour moi. La lettre du père, de l'ami, de l'époux. Je lis la parole de Dieu comme ça. Et c'est merveilleux. C'est une richesse. Ah, il y a des tas de choses que je ne comprends pas. Ça n'a pas d'importance. Il y a tellement de choses que je comprends. Alors j'ai ma petite Bible à moi. Ah, pour moi, tout se résume dans le Cantique des Cantiques. Il n'y a que ça d'intéressant. Le dialogue de l'époux et de l'épouse, il n'y a que ça d'intéressant. Alors je me reviens toujours au Cantique des Cantiques. Et puis l'évangile de Saint Jean, c'est ultime, c'est dernier. Un autre, ce sera l'Apocalypse. Je me délecte de l'Apocalypse. C'est tellement grand. Là, j'ai la solution pour toutes les luttes et toute la psychologie. C'est merveilleux. Psychologie humaine étonnante, parce que ça me fait comprendre toutes les tentations du démon. Et grâce aux tentations du démon, j'ai une théologie de la psychologie étonnante, merveilleuse, qu'on n'a pas encore fait, je la fais. Je peux très bien lire l'écriture comme ça. Je peux lire l'écriture alors en exégète. Je peux lire l'écriture en théologien. Et comme il y a diverses demeures dans la maison du Père, hein, il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père, les théologiens ont des positions diverses. Il y a diverses théologies, c'est bien évident. Alors, diverses demeures. Vous voyez, hein, l'écriture, je peux la lire de multiples manières. Ce qui est très intéressant à voir, c'est que quand je la lis en philosophe, j'ai l'autonomie et la liberté du philosophe. Je m'en fiche du reste. Je prends la Bible, je la lis pour elle-même. C'est ça qui m'intéresse. Je connais, hein, encore, ça existe. Et quand vous connaissez des gens intelligents qui ne croient pas, faites-leur lire la Bible. Quelquefois, ça met des oppositions violentes. J'ai connu une juive allemande, freudienne, de père rabbin, qui, quand elle s'est mise à lire la Bible à 16 ans, parce que son père disait dans la Bible, toute la vérité est contenue. C'est la parole de Dieu. Et donc, toute la vérité est contenue. Elle s'est mise à lire la Bible à 16 ans. Et quand elle a vu que la Bible disait des choses qui apparemment étaient contraires à la science, elle l'a fermée et elle s'est jetée dans la science. Et elle est devenue une positiviste acharnée. Bien. Comment lire la Bible en philosophe, en psychologue, peut conduire à des positions que j'appellerais des positions erronées de positiviste. Je peux très bien lire la Bible en exégète, en théologien, en croyant, en pur croyant. Donc, vous voyez, c'est très complexe tout ça, hein. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Et il faut comprendre cela. Il faut toujours garder cette espèce d'ouverture. Pas condamner tout de suite. Il n'y a qu'une seule manière de lire la Bible. Non. Dites pas ça. Soyez pas plus sévère que ce que de fait on voit là, ce qui a existé dans la chrétienté. Mais l'Église peut très bien dire, nous avons notre théologie. Et même l'Église reconnaît diverses théologies. L'Église ne dit pas il n'y a qu'une seule théologie, celle de saint Thomas. Pas du tout. L'Église dit celle de saint Thomas a un privilège particulier. C'est que c'est celle qui va le plus loin en profondeur contemplative et qui a la plus grande sécurité. Commun. Mais il y a la théologie de Saint Bonaventure. Il y a la théologie de Bellarmin. Il y a la théologie de Suarez. L'Église accepte tout ça. À Salamanque, à l'université de Salamanque, au Moyen-Âge, au XIVe siècle, il y avait diverses chaires de philosophie, de théologie. Il y avait la chaire de Thomas d'Aquin, la chaire de Suarez, la chaire de Durand, la chaire d'Occam. Avec ce qu'on montrait qui était erroné, ce qui était condamné par l'Église. Occam a été condamné sur certains points, mais Durand n'a pas. Or, c'est une position tout à fait différente que celle de saint Thomas. Et on enseignait ça, et on choisissait. On optait, suivant les perspectives diverses de l'intelligence. La foi restait unique, mais l'intelligence elle-même a des très grandes différences. Donc vous voyez, c'est pour bien comprendre la naissance de la théologie. Elle est congénitale aux croyants. Croyant fait sa petite théologie. Tout croyant qui réfléchit un peu. La petite Thérèse a sa théologie. C'est sûr. Je peux faire un livre sur la théologie de la petite Thérèse. Alors on fera plus la spiritualité de la petite Thérèse. Mais il y a une théologie derrière. Je vous affirme. Parce qu'elle réfléchit. Elle pense. La théologie est née aussi face aux incroyants. Aller répondre aux incroyants, à ceux qui attaquaient. Et l'intelligence se développe face aux incroyants. C'est ce qu'on va appeler l'apologétique. Saint Justin. C'est une apologétique tout à fait première, les livres Saint Justin. Donc on est en face d'une apologétique. Défendre les positions d'Église. Montrer que les positions d'Église ne sont pas belles. En face de l'islam, par exemple, j'ai dit aujourd'hui, en face de l'islam, montrer qu'affirmer que Dieu est absolument simple et que Dieu est trine, ce n'est pas absurde. Parce que c'est ce qu'ils vous diront tout de suite. Nous sommes pour le monothéisme. Donc Dieu est absolument simple. Vous, vous ajoutez, et enfin, en réalité, vous êtes idolâtre. Les musulmans fanatiques diront ça. C'est pour ça que couper la tête du chrétien, c'est se débarrasser d'un impie. Et c'est bon. D'autres diront pas du tout. Puisqu'au fond, il y a beaucoup de demeures dans l'islam. Comme il y a beaucoup de demeures dans la théologie chrétienne. D'autres diront pas du tout. Si on pousse beaucoup l'islam, on s'aperçoit que, en filigrane, la Trinité est annoncée. Comme dans l'Ancien Testament. En filigrane. Celui qui sait lire en filigrane. Mais c'est très important de voir ces diverses positions vis-à-vis même de positions qui ne sont pas du tout celles de la théologie chrétienne. Pourquoi ça ? C'est parce que le croyant demeure toujours un être intelligent. Et s'il demeure un être intelligent, il cherche. La foi ne supprime pas la recherche. Au contraire, elle veut pousser à la recherche. La foi ne se fige pas. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Puisque la foi est une position embryonnaire. Et le croyant le reconnaît. C'est une position embryonnaire, la foi. Puisque la foi est tout entière ordonnée à la vision béatifique. Et si la foi est tout entière ordonnée à la vision béatifique, on accepte qu'ici sur la terre, un croyant est dans un état d'imperfection. Et si le croyant est dans un état d'imperfection, il reconnaît qu'il est dans un état embryonnaire. Or, l'embryon demande de croître, demande de naître. Et s'il demande de croître, il accepte qu'il y a nécessairement des étapes successives, que tout n'est pas fixe. Tout n'est pas figé. Autrement, ce serait la mort de l'embryon. Et donc, il doit croître. Ce grand problème qui est très ancien de la croissance de la théologie, et ça va jusqu'à la croissance des dogmes. L'homogénéité des dogmes dans leur croissance, dans leur, on dit même certains, dans leur évolution. Il faut bien comprendre. En réalité, c'est plutôt la croissance. La croissance au point de départ, la croissance au terme. Donc, vous voyez que la position de la théologie est une position nécessaire. Le croyant intelligent est un théologien. Il y a deux sources à la théologie, deux sources immédiates, la foi et l'intelligence. Et c'est pour ça que je dis que la théologie est nécessairement quelque chose de complexe. Mais il y a deux sources vitales de la théologie. La foi vivante, contemplative. La foi tendant vers le point de vue de la vision béatifique. Alors, première source de la théologie. Le croyant. Cette source s'appuie sur la théologie, sur l'écriture, elle s'appuie sur la tradition, elle s'appuie sur l'enseignement de l'Église. Trois sources pour le croyant. Et elle s'appuie sur l'Esprit Saint. Le croyant vit, le croyant de foi vivante, vit sous le souffle de l'Esprit Saint. Toute une vie mystique, toute une vie intérieure, toute une vie d'oraison. Et cette vie avec l'Esprit Saint doit être source de croissance intime pour le théologien. Et le théologien doit essayer d'exprimer l'inexprimable. Ma vie avec l'Esprit Saint est inexprimable. C'est une vie d'amour. Et la théologie doit être un exposé ordonné, intelligible. La théologie, ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas dire « ah, ah, ah », puis se mettre à chanter. Non, ce n'est pas ça la théologie. Ça implique un exposé qui doit être ordonné, qui doit être aller jusqu'à un exposé scientifique, descriptif et scientifique, science subalternée à la vision béatifique, et subalternée nécessairement au magistère, dépendant du magistère, puisque la foi. Donc, première source, deuxième source, l'intelligence. Un vrai théologien, c'est celui qui vit sa vie de foi d'une manière intérieure, mystique, contemplative, et qui a une intelligence bien formée, qui recherche la vérité, une intelligence en appétit de vérité, puisque la foi me met en liaison directe avec la vérité première se révélant à moi. Donc la foi est toujours liée à la vérité, à la vérité première. À la vérité première se révélant. Et se révélant à travers ces canaux différents, en se servant de la parole de Dieu. La foi se révélant, se sert de la parole de Dieu, se sert à travers une tradition et à travers le magistère. Et l'intelligence humaine est capable de vérité. Si l'intelligence humaine était incapable de vérité par elle-même, elle ne pourrait jamais s'unir à la foi et donner comme fruit une théologie scientifique. Pour qu'une théologie scientifique puisse naître, il faut comprendre que l'intelligence humaine est capable d'atteindre la vérité et que ma foi me met en contact avec la vérité première se révélant à travers la parole. Dans la tradition et dans l'Église. Voyez, tout ce qui est présupposé à la théologie, c'est déjà pas mal, hein, comme présupposé. Et comme ces présupposés sont nombreux, il est tout à fait normal que le fruit qu'est la théologie se donne à moi selon des modalités très différentes. La théologie du père Journet et la théologie de Urs von Balthasar étaient assez différentes. La théologie, je prends uniquement l'intérieur de l'Église, la théologie actuelle de tel théologien, du père Chenu, pour ne pas le nommer, et la théologie du père de Lubac, la théologie d'un père Congar, je prends ceux que je connais le mieux, ou la théologie protestante, mais elles sont assez différentes. Ce sont des théologies qui ont des valeurs différentes. Alors je pourrais dire, elles sont différentes, mais laquelle est la plus théologique? Celle qui s'approche du plus de la vérité. Ça, c'est sûr. Je ne fais pas la théologie pour être dans l'erreur. Je fais la théologie pour rechercher la vérité. Et je sais que c'est très difficile, puisque c'est une vérité qui me dépasse complètement. Mais c'est pour ça que je fais de la théologie. Pour avoir un discernement vis-à-vis des erreurs et une recherche loyale de la vérité. Constante. C'est pour ça que j'écoute ce que les autres disent. Parce qu'il y a toujours une petite paillette de vérité. Pour essayer d'avoir un regard de vérité toujours plus grand. Donc vous voyez bien qu'est-ce que c'est la théologie. Comme c'est délicat, comme c'est délicat, et comme il ne faut pas trop vite. Alors, je continuerai cet après-midi en vous montrant, tel qu'il me semble, les différents grands courants, non pas historiques, mais à l'intérieur de la théologie. On peut très bien s'inspirer de saint Thomas, mais aujourd'hui, on n'a pas à répéter saint Thomas. Vous comprenez bien. On serait un faux disciple de saint Thomas. La théologie du XXe siècle n'est pas la même que celle du XIIIe. Elle est substantiellement la même. Parce que la vérité n'a pas changé. Mais je ne peux pas la donner de la même façon. Si vous prenez un... On va faire l'essai, si vous voulez. Je peux vous donner un petit article de saint Thomas. Puis vous direz, mais je ne comprends pas grand-chose. Oh, vous êtes venu pour comprendre quelque chose. Donc si je restais uniquement sur la somme théologique de saint Thomas, je vous affirme que c'est très difficile à communiquer. C'est très difficile. C'est très important. Il faut connaître saint Thomas. Saint Thomas fait partie des grands théologiens. On est pour, on est contre, mais il faut connaître saint Thomas. Il faut connaître Bellarmine. Il faut connaître Suarez. Il faut connaître Rameur. Il faut connaître Congar, si on veut être un théologien. Mais vous comprenez bien qu'on connaît tout cela en vue de la recherche de la vérité. C'est uniquement pour s'informer